Vendredi 19 avril et il est 6h30. Bienvenue sur France Bleu Occitanie. Bienvenue dans ce vendredi ensoleillé où le soleil s'impose. On l'attendait avec impatience, c'est la fête. Il va être là tout le week-end. Bon, ça caille par contre ce matin, on a 3-4 degrés en moyenne. On aura 19 degrés au plus chaud de la journée sur l'agglomération toulousaine. Avec le vent aussi qu'il faut compter. Un vent du nord qui souffle aujourd'hui et ce week-end et qui est là pour bien nous rafraîchir. On va faire un point complet à la fin de ce journal. Vous savez aussi qu'on vous accompagne sur la route, qu'on surveille l'état de votre circulation. Eh bien, je peux vous dire que tout va bien à cette heure-ci. Les informations, c'est avec vous, Mathieu Ferry. Bonjour.
Bonjour.
C'est l'info de la nuit, des explosions en Iran.
Et la grande question qu'on se pose, est-ce une riposte d'Israël moins d'une semaine après l'attaque de Téhéran? Que sait-on à l'heure qu'il est, Jira Mohamed? Vous êtes en Israël pour France Bleu.
D'après les agences de presse officielles du pays, l'Iran a activé cette nuit sa défense aérienne dans plusieurs provinces. Les vols sont suspendus à partir et à destination de plusieurs aéroports aussi, notamment celui de Téhéran, la capitale. La télévision iranienne, elle, signale plusieurs explosions entendues, au moins trois, notamment dans le secteur d'Ispahan, la grande ville au centre du pays où se trouvent des installations nucléaires, installations qui n'auraient pas été touchées. Plusieurs drones, en revanche, auraient été abattus, mais aucun missile envoyé, ça aussi selon des médias iraniens. Du côté d'Israël, l'armée contactée évidemment très tôt ce matin par les journalistes, dit ne pas commenter ces événements pour l'instant. Officiellement, elle ne parle pas donc encore de riposte, pas de déclaration non plus du premier ministre Benjamin Netanyahou, alors que des sirènes d'alerte ont retenti dans le nord du pays où je me trouve actuellement, notamment dans la ville de Jish qui est à quelques kilomètres, elle aussi, de la frontière avec le Liban, une localité régulièrement ciblée par des tirs de roquettes Hezbollah libanais alliés de l'Iran.
Toutes les infos sur francebleu.fr évidemment, et puis on vous tient au courant toute la matinée sur France Bleu.
Et encore un accident mortel avec un cycliste en Haute-Garonne.
Ouais, le deuxième en moins d'une semaine, samedi dernier, c'était près de Saint-Sulpice-sur-Lèze, un cycliste percuté par un conducteur qui avait pris la fuite avant d'être arrêté. Hier après-midi, nouvel accident entre Saint-Lys et Seyss, avec cet homme de 60 ans mort percuté par une voiture dans l'après-midi sur une route très fréquentée avec des lignes droites. Pour l'instant, on ne connaît pas les circonstances de l'accident. Le conducteur de la voiture a été interrogé par les gendarmes. De nouvelles fouilles hier dans l'affaire Jubilard dans le secteur de Cagnac-les-Mines où la mère de famille a disparu fin 2020. Important dispositif, une centaine de gendarmes et a priori pas de découverte. Les juges d'instruction se sont également rendus sur place. Cette zone avait déjà été ratissée par les enquêteurs en 2021 et 2022. Ça n'avait rien donné. Toujours dans le Tarn, et si le contrat de concession de l'A69 était illégal? La cellule d'investigation de Radio France a pu consulter ce contrat. Il y a des doutes sur la durée de la concession. 40 ans plus 15 ans, soit 55 ans, ce qui est rarissime. Et des doutes aussi sur le rôle de Martial Gerlinger, le directeur général d'Atosca, qui avant était fonctionnaire et qui a signé le document qui englobe la déviation de Soile dans la 69. Une déviation financée par des fonds publics. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Vous écoutez France Bleu Occitanie, les 6h33 et la réouverture de la ligne SNCF Montrégeau-Luchon prend un peu de retard.
Ouais, alors qu'elle est très attendue par les communs joueurs. Ça sera finalement dans un an, mai 2025 au lieu de fin 2024. Comme prévu, chantier décalé pour des raisons de sécurité après des inondations. Sur place, tout a été nettoyé, la végétation enlevée, tout comme les anciens rails. Il ne reste plus qu'à poser les nouveaux. C'est la deuxième tranche de travaux. Et puis, il y a aussi une question de compétences partagées entre la SNCF et la région Occitanie qui porte le projet. Catherine Trevé est la directrice de SNCF Réseau en Occitanie.
Il y a les 400 premiers mètres qui vont rester gestionnaires d'infrastructure SNCF Réseau. Le reste de la ligne sera gestionnaire d'infrastructure région. Sur ces 400 premiers mètres, il y a aussi des travaux à réaliser, de remplacement voie ballast et de signalisation. Donc ça, c'est bien nous qui y sommes. Si nous, on ne fait pas le boulot dans les temps, la région ne pourra pas exploiter. Et moi, je suis là aussi pour réaffirmer qu'on est mobilisé et qu'on fera le travail dans les temps et qu'on permettra à la région de réouvrir quand sa partie à elle sera prête. Nous, on fait les travaux à l'automne, on sera prêt. Dans les temps. La région est maintenant gestionnaire d'infrastructures de plein exercice, mais ceci dit, elle nous a sollicité pour qu'on exerce les missions de gestion des circulations lorsque la ligne sera réouverte. À ce titre-là, il va y avoir quand même les rames à hydrogène à gérer et surtout l'approvisionnement en hydrogène de ces rames. Et donc, il va falloir qu'on définisse ensemble avec la région les conditions d'accès aux voies d'approvisionnement.
Ouais, parce qu'il y aura bien des trains à hydrogène, mais seulement fin 2025, l'ouverture de la ligne se fera d'abord avec des trains diesel pendant quelques mois.
La 27e journée de Pro D2 de rugby, quel défi pour Montauban ce soir.
Ouais, l'USM toujours menacé de relégation, avant-dernier du championnat et qui reçoit le leader Vannes à Sapiac, c'est à 19h30. À 19h30 aussi, Colomiers joue à Nevers. Là, c'est la bataille pour le haut de tableau. Agen joue à Valence-Romans. Hier soir, le Provence Rugby a battu Mont-de-Marsan 46 à 22. En top 14, le Stade Toulousain, lui, joue demain soir contre Toulon. Ça sera au stade Vélodrome de Marseille avec Thibaut Flaban sur le terrain. Alors avant, c'était facile de le reconnaître, en plus de faire 2m03. Le deuxième ligne portait au choix un casque blanc ou un casque rouge. Mais ça, c'était avant. L'international français a laissé tomber le casque, on l'a vu lors des derniers matchs, mais pourquoi ?
Je mets plus de casque parce qu'il y a cette fameuse règle qui dicte la couleur que l'on doit mettre en fonction de la couleur dominante du maillot. Moi, ça faisait un petit moment que je le mettais plus à l'entraînement, donc j'avais plus trop l'impression d'en avoir besoin. En fait, c'était surtout pour les oreilles au début. C'était pour éviter d'avoir les oreilles trop en chou-fleur. Et puis ouais, comme je disais, ça fait un an et demi que je le mets plus à l'entraînement, que c'était que pour les matchs. Donc je pense que c'était plus par habitude et le fait de devoir avoir un assortiment de plusieurs casques en fonction du maillot, ça me saoulait. Donc voilà, j'ai enlevé le casque. Je mettais le blanc quand on jouait en couleur foncée et le rouge quand on jouait en couleur claire. Et du coup, maintenant j'ai plus de casque.
Et Toulon-Toulouse, c'est à vivre évidemment demain soir sur France Bleu Occitanie à partir de 20h30 pour l'avant-match.